Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Encelade, petit satellite glacé de Saturne, est en passe de rejoindre, ou a déjà rejoint d'ailleurs, Mars, Europe et Titan dans le club des destinations les plus en vue pour les exobiologistes, mais c'est aussi, et c'est le moins qu'on puisse dire, un cas d'école et d'étude pour les géologues du système solaire. Pierre Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon et géologue du système solaire. Oui. À distance, hein. Photo-interprétateur, comme on dit. Encelade, c'est quand même une drôle de surprise pour les gens qui s'intéressent aux petits corps dans le système solaire. Ce satellite de Saturne qui est à la périphérie de l'anneau de Saturne.
C'est le deuxième en venant de Saturne.
C'est le deuxième en venant de Saturne, voilà.
Deuxième gros.
A une particularité extraordinaire, c'est que, comme on dit, il est en émission. Il émet.
C'est un satellite avec des volcans actifs. C'est le quatrième corps du système solaire dans lequel on est sûr qu'il y a quelque chose qui sort de l'intérieur, qui crache. On connaissait la Terre, évidemment, avec des volcans. On a connu Io en 79, Triton en 89, et Encelade maintenant depuis 2 ans. Que Cassini a découvert, donc c'est le quatrième corps avec des volcans actifs dans le système solaire.
Alors, qu'est-ce qui en fait une particularité? Est-ce que c'est sa taille, c'est 500 km?
Alors d'abord c'est tout petit, les trois autres que je vous ai donnés c'est la Terre, 12 000 km, Io et Triton, on va dire c'est la taille de la Lune, là c'est 500 km de diamètre, c'est-à-dire qu'on en met deux sur la France. Donc c'est vraiment tout petit. Ensuite c'est un satellite qui est en glace, Triton aussi vous allez me dire, mais Triton c'est pas du vrai volcanisme. En sens que c'est le soleil qui réchauffe la surface pendant l'été. La surface laisse passer la chaleur du soleil. Dessous, il y a quelque chose de sombre. Ça vaporise l'azote et il y a des geysers d'azote liquide sur Triton. Il y a la même chose sur Mars, dans la calotte transitoire. Donc c'est pas du vrai volcanisme. Mais là, apparemment, c'est du vrai volcanisme. C'est-à-dire que c'est l'intérieur de la planète qui est fondu et il sort cet intérieur fondu, comme sur la Terre, comme sur Io. Avec une différence, c'est que la Terre et Io, c'est des planètes en cailloux. Donc ce qui sort, c'est du caillou fondu, de la lave. Encelade, c'est une planète, enfin, satellite en glace. Donc ce qui sort, c'est de la glace fondue, c'est-à-dire de l'eau.
Ce qu'on a appelé le cryovolcanisme.
Cryovolcanisme, volcanisme de glace.
Alors, pour qu'il sorte de la glace fondue, donc c'est une espèce de geyser, hein, en fait. Il faut bien qu'il y ait un mécanisme, une énergie.
Il faut une source d'énergie. Alors ça, c'est la grosse surprise. Si vous prenez les planètes en cailloux, les planètes qui sont très grosses, la Terre et Vénus, sont encore actives, elles sont grosses. Il y a tellement de radioactivité naturelle dans ces planètes que ça chauffe. Et c'est encore chaud. Les planètes moyennes, Mars, a priori, c'est pas mort, mais mourant. Les volcans récents sont vraiment très limités, l'essentiel est vieux. Et les petites planètes, la Lune, Mercure, en surface, il n'y a rien d'actif. Donc un machin encore plus petit, 500 km... ça devrait absolument pas être actif. Alors on me dit oui, mais il y a les marées. Si on prend les satellites de Jupiter, ils sont la taille de la Lune, et pourtant il y a des volcans énormes sur Io. C'est parce que Io est tordu par les marées de Jupiter, et énormément tordu parce qu'il y a les autres satellites qui lui passent par derrière, Europe, Ganymède et Callisto, et à chaque fois que Io se fait doubler par Europe, par exemple, ça tord un peu son orbite, et tout ça, ça fait des forces de marée, Io est animé, il est tiré, poussé, ça frictionne à l'intérieur, et ça frictionne tellement que ça chauffe, et ça fond. Quand on fait des calculs sommaires, l'énergie dégagée par les marées sur Io, c'est 100 fois celle de la radioactivité. Alors, sur Encelade, c'est tout petit, donc les marées sur un corps sont tout petits, il n'y a pas 36 gros satellites autour de Saturne, il n'y en a qu'un, Titan. Il est loin. Les autres, Mimas ou Tétis, ils sont ridicules en taille. Donc, a priori, Encelade ne devrait pas être déformé. Et pourtant, il y a une source d'énergie. Alors, les scientifiques, c'est un peu un défaut des scientifiques modernes, c'est que quand on voit quelque chose qu'on n'avait pas prévu, on met des hypothèses, on fait des calculs, parce que maintenant, avec les ordinateurs, on peut faire des tas de calculs. On met un peu de sel, un peu de poivre, un peu de ceci, un peu de cela, et on met les ingrédients qu'il faut pour avoir le résultat qu'on obtient. C'est facile, on connaît la fin de l'histoire, alors on met les indices qu'il faut pour que ça marche. Alors maintenant, on arrive à faire, avec les forces de marée, en faisant varier les périodes, ceci, cela, à faire assez d'énergie à l'intérieur. Et encore, quand je dis qu'on y arrive à en faire assez, Il y a des gens qui disent, moi j'arrive pas à en faire assez, il n'y a pas d'eau liquide, et ce qui sort, c'est de la vapeur d'eau, ça c'est sûr. Mais elle n'a pas besoin d'être liquide pour sortir. Si vous frottez de la glace, il fait moins 200 pour simplifier par là. Si vous la frottez, qu'elle monte à moins 10, c'est chaud pour de la glace moins 10. Et dans le vide, c'est le vide spatial, de la glace chauffée à moins 10 degrés va se sublimer, s'évaporer, s'enfondre. Et il y a des gens, une minorité, mais des gens qui disent ça, qui ont fait des calculs qui montrent que c'est possible. Il y a des gens qui disent pas du tout, c'est pas possible. Et il faut vraiment de l'eau liquide dessous. Et il y a un papier sorti il n'y a pas longtemps par une équipe française de Nantes qui disent qu'avec les marées qu'on peut calculer, pour déformer la couche de glace, il faut qu'elle puisse se déformer, donc dessous ça soit mou, liquide, parce que sinon ça se déformerait pas assez, et qui impose qu'il y ait un océan liquide dessous. Mais ils ont mis les ingrédients qu'il faut. Un ingrédient majeur, par exemple, y a-t-il ou y a-t-il pas d'ammoniac ? Si vous mettez un peu d'ammoniac, vous abaissez de 100 degrés la température de fusion. Au lieu de fondre à 0 degré, vous allez fondre à moins 100 degrés. Ça change tout. Et on ne connaît pas la teneur en ammoniac de la glace.
Alors, on a besoin d'observations. En ce moment, la sonde Cassini
continue à tourner.
Elle passe quand même très près. Hein.
Voilà.
Il y a des survols qui sont des survols rapprochés avec des données et des informations précieuses.
Le dernier survol rapproché a analysé la composition chimique de ce qui sortait. Alors, la sonde n'était pas prévue pour ça. Ces analyseurs, c'était pour la haute atmosphère de Titan. C'était absolument pas pour ce qui sortait des volcans d'Encelade. Mais ce qu'elle a analysé, c'est de la vapeur d'eau, c'est normal. Enfin, c'était plutôt des petits cristaux de glace à l'époque. Elle a trouvé du gaz carbonique. Elle n'a pas trouvé d'ammoniac. Ça, c'est très étonnant, parce que normalement, il devrait y en avoir. Et elle a trouvé des produits qu'on appelle organiques, c'est-à-dire des molécules carbonées réduites. Elle a trouvé de l'éthane, de l'acétylène et des choses comme ça. Et ce qui a fait dire à la NASA, regardez ce qui sort, c'est ce qu'on appelait dans le temps la soupe primitive. Donc, il semblerait bien que dans le liquide, qui a 9 chances sur 10 d'être présent là-dessous, c'est pas de l'eau pure, mais il y a plein de molécules, dont des molécules organiques, carbonées.
Donc, plein de chimie.
Plein de chimie et de chimie complexe, puisqu'il y a des, s'il y a des, l'acétylène, triple liaison, c'est qu'il y a des réactions chimiques complexes. Alors, la sonde Cassini a fini sa mission normale, elle marche encore. Pour qu'une sonde marche, il faut deux choses. Il faut qu'elle ait de l'énergie, son réacteur nucléaire. Il faut qu'elle ait du carburant pour modifier éventuellement sa trajectoire. Il faut que le Congrès vote des rallonges budgétaires. Pour l'instant, les trois vont bien. Il y a l'énergie électrique, il y a encore du carburant et il y a les crédits. Donc, je ne sais pas ce qui est prévu. Je crois qu'il y a un ou deux survols rapprochés de prévu. Mais je ne peux pas vous dire si c'est dans 6 mois ou dans 2 ans, parce qu'il y a la contrainte orbitale, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que maintenant, la sonde est en orbite très inclinée sur les plans des anneaux. Donc, elle n'est pas en orbite polaire autour de Saturne, mais presque. Donc, mais ils vont essayer de passer. Ils vont prendre des photos de plus près. Voilà.
Ce qui reste fascinant autour d'Encelade, c'est aussi ce que l'on voit à la surface.
Ah ben
On dirait qu'un un tigre avec ses griffes a justement déchiré la surface de la planète. Justement, on parle de griffes. Hein.
Voilà, griffure de tigre.
Griffure de tigre, c'est ce qui est extraordinaire.
Voilà.
Comment est-ce que c'est possible ?
Ça ressemble un peu à ce qu'on voit sur Ganymède. Si on regarde des photos de Ganymède, satellite de Jupiter, on voit une géologie de la glace aussi, une géologie avec aussi des structures assez bizarres. Alors, il n'y a pas ces griffures de tigre, il y en a 4, des griffures de tigre qui suivent. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'elles ont des noms. Alors, ces noms, en particulier, il y a Damas, Bagdad, Alexandrie, et je ne sais plus, donc c'est des noms de villes arabes. Comment ça se fait que des failles sur Encelade aient des noms de villes arabes ? C'est parce que depuis au moins 10 ans, 20 ans, l'Union Astronomique Internationale a décidé de nommer pour tous les satellites de Saturne les structures par des noms empruntés aux grandes légendes de la littérature mondiale. Par exemple, Jappé, tous les noms de Jappé sont tirés de la chanson de Roland. Vous avez le cratère Durandal, la montagne Charlemagne et tout ça. Et dans Encelade, c'est des noms empruntés aux mille et une nuits. Et les fossés, les failles sont des villes des mille et une nuits. Et les villes des mines, lui, ben c'est Bagdad, par exemple. Et Bagdad est un volcan actif d'Encelade.
Donc, on ne doit rien à la guerre d'Irak.
Absolument rien. Je ne sais pas si Bush était très content. Enfin, je pense qu'il ne s'intéresse pas à ça parce que c'est trop compliqué pour lui.
Alors, comment expliquer ces fissures, ces failles ?
Alors, d'abord, quand on regarde Encelade, il n'y en a pas partout des failles. Il y a, on va dire, la moitié d'Encelade qui a des cratères. Pas trop, mais il y en a quand même. C'est-à-dire que la moitié d'Encelade a une surface qui est vieille. Quelques centaines, milliers de millions d'années. Et l'autre moitié n'a quasiment pas de cratère, voire pas du tout. Donc elle est jeune. Quand je dis jeune, ça peut être très jeune. Avant même qu'on voit les volcans, on avait vu que la glace au niveau du pôle sud d'Encelade était ce qu'on appelle de la glace amorphe. Or, la glace amorphe sous le rayon cosmique, etc., en 100 ans, elle cristallise. Donc, si vous voyez de la glace amorphe, c'est qu'elle était sortie il y a moins de 100 ans.
C'est quoi la glace amorphe ?
Si on prend du quartz fondu, tout le monde connaît les cristaux de quartz, c'est joli. Mais le verre, c'est essentiellement du quartz, mais il n'y a pas de cristaux. Donc, c'est une structure où toutes les molécules sont dans le désordre. Et on peut faire de la glace où toutes les molécules sont dans le désordre, il n'y a pas de cristaux de glace. Mais ça, c'est pas bien stable. À moins de 100 degrés, avec le rayonnement cosmique ultraviolet, en un siècle, vous rendez ça cristallisé. Donc déjà, à un moment que je faisais des conférences là-dessus, je montrais cette glace amorphe. Il est très probable que cette glace, elle est moins vieille que moi. Bon, j'ai pas un siècle, j'ai que 56 ans. Enfin, un siècle, c'est le maximum. Déjà, je pouvais montrer de la glace moins vieille que moi, c'est déjà pas mal. Puis on a vu que ça fumait. Et c'est localisé au pôle sud, l'endroit le plus jeune, le plus chaud. Le sol est à 20 à 30 degrés plus chaud que les environs. Ça, c'est une mesure infrarouge qu'il y a. Et c'est là qu'il sort de la vapeur. Et c'est juste au pôle sud. Alors, ce n'est pas un hasard. Imagine qu'il y ait une planète avec quelque chose de lourd qui tourne, et que la planète tourne. La chose lourde va avoir tendance à aller le plus loin possible de l'axe de rotation, à l'équateur. À l'opposé, la chose légère, c'est l'inverse, va avoir tendance à aller le plus près possible de l'axe de rotation. Or, s'il fait chaud, là, quand c'est chaud, on est moins lourd que quand on est froid, parce qu'on est plus dilaté. Donc, s'il y a une anomalie thermique sur Encelade, c'est normal qu'elle soit au niveau du pôle. Mais alors, pourquoi il n'y en a qu'une ? Et pourquoi il n'y en a pas deux ? Pourquoi c'est là que c'est chaud et pas ailleurs ? Alors là, j'en ai pas la moindre idée.
Donc, il y a encore...
Alors, encore ?
Il y a encore une interprétation.
Voilà. Alors, il faut savoir pourquoi ça chauffe. Alors, ces rayures de tigre, leur morphologie, là, c'est des cassures, hein, c'est des failles. Quand on mesure la température, c'est le long de ces failles qui fait le plus chaud. La zone entière est plus chaude, mais au niveau des failles, c'est beaucoup plus chaud. Donc, par ces cassures, sort de la vapeur. Alors, ma foi, si on va en Islande, on voit aussi que souvent, les volcans sont alignés sur des fractures. Elles ne sont pas de forme de rayures, de griffures de tigre. Mais enfin, ça, la morphologie, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est d'où vient l'énergie. Est-ce que les marées, ça suffit? Ou est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce qu'il y a de l'ammoniaque? Est-ce qu'il n'y en a pas?
Est-ce que ces émissions, justement, de vapeur d'eau, qui entraînent sans doute de la poussière, alimentent
les
anneaux de Saturne?
Alors ça, c'est un problème qui est constaté. Je ne me rappelle plus en quelle année on a découvert l'anneau E. Disons, il y a 20 ou 30 ans. C'est un anneau très, très difficilement visible depuis la Terre. Et on a constaté, dès qu'on a découvert l'anneau E, qu'Encelade est en plein milieu. Donc Encelade est dans l'anneau E. Ce n'est pas les anneaux A et B qu'on voit au télescope, hein. C'est vraiment loin. Et tout le monde a dit, c'est curieux. Alors avant qu'on découvre la surface d'Encelade, on disait, il a dû y avoir un impact de météorite récent sur Encelade. Ça a fait de la poussière, et voilà. Puis Voyageur est passé en 86 et a vu que la surface d'Encelade était jeune. A pas vu de volcan actif, mais elle a vu qu'elle était jeune. On l'a dit, alors le coup de l'impact, peut-être pas là. C'est peut-être parce que la surface jeune et la glace se subliment. Puis maintenant, on a vu les volcans, et il y a quelques photos qui ont été prises de très loin, où on voit vraiment les panaches volcaniques qui alimentent l'anneau E. Donc l'anneau E, c'est vraiment le fils d'Encelade.
Alors, vous parliez, et c'est très important, de datation. Comment date-t-on l'âge de la surface d'Encelade ?
Alors, la datation relative, c'est-à-dire dire ici c'est plus jeune que là, c'est facile, on compte les cratères. Si vous imaginez, je ne sais pas, la bataille de Verdun... qui a duré à peu près un an, un champ qui n'aurait pas été labouré depuis le début de la bataille, aurait beaucoup de cratères d'obus. Si un paysan assez fou avait labouré son champ au milieu de la bataille de Verdun, ce champ fraîchement labouré aurait à peu près deux fois moins d'impact d'obus que... En comparant le nombre de cratères par unité de surface des différents terrains d'une même planète, on peut savoir qui est jeune, qui est vieux. Plus jeune, plus vieux. Alors ensuite... Donc c'est comme qu'on dit Louis XIV, c'est après Louis XIII. Mais ensuite, il y a à mettre un âge là-dessus. Plus jeune, plus vieux, ça peut être tout ce qu'on veut. Et ça, c'est extrêmement difficile. Alors la seule méthode qu'on a est la suivante. On est allé sur la Lune il y a déjà longtemps. On savait qu'il y avait des terrains avec beaucoup de cratères, donc vieux, avec pas beaucoup de cratères, donc jeune. On a ramassé des cailloux, on l'a fait sur la Lune, on les a ramenés, on les a datés. Et on a pu donc donner pour la Lune une relation nombre de cratères par kilomètre carré en fonction des âges. Et puis ensuite, on transpose cette courbe sur toutes les planètes du système solaire. Mais il faut faire des tas de corrections. La distance à la ceinture des astéroïdes, au nuage de Kuiper, la proximité de sa planète, Saturne en l'occurrence, qui va attirer à elle météorites et comètes. Donc on fait des modèles pour corriger cette courbe lunaire, avec donc des incertitudes terribles. Rien que sur Mars, qui est quand même la planète très à la mode actuellement, un même terrain, suivant une certaine, on lui dit c'est 500 millions d'années, il y a d'autres qui disent non, c'est 1,5 milliard.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil. L'ordre ne changera pas, on sait toujours qui est avant, qui est après. Mais...
La meilleure façon de préciser cela, c'est encore une fois de se poser, de ramener des échantillons.
Alors pour le silicate, ça marche très bien. Pour la glace, ça sera beaucoup plus difficile. Par exemple, sur la Terre, il y a de la glace au pôle. On fait des carottes pour étudier les variations climatiques. Et la chose la plus difficile dans ces histoires-là, c'est pas de faire le forage. Ça coûte cher, mais c'est de dater la glace. On ne sait pas dater directement la glace par les méthodes usuelles de radioactivité, style carbone 14 et tout ça. Alors, sur la Terre, on a mis au point des méthodes très indirectes pour y arriver. Je ne sais pas si, pour l'instant, on saurait, si on ramenait un bloc de glace dans ce lab, dans le labo où je travaille, il y a plein de gens qui font de la datation, je ne sais pas s'ils sauraient dater de la glace.
Oui, parce qu'avec la glace sur Terre, ce sont les petites bulles qui sont à l'intérieur, qui permettent bulles d'air, de dater.
Non, on ne date pas. Avec ça, on mesure la qualité de l'atmosphère, plus de gaz carbonique. Avec la valeur isotopique de l'eau, on disait il fait chaud. Et comme ça, on fait la relation température-gaz carbonique. Mais savoir l'âge, c'est beaucoup plus difficile. Donc, en fait, c'est tout à fait indirect. Le mieux, c'est de faire des modèles sur la glace terrestre. On sait, mettons, qu'il tombe 1 mètre de neige par an. Ça se tasse. Ça ne fond pas, ça se tasse. Ce mètre de neige devient 10 cm de glace. Et la glace flue. Et la glace fluant, elle coule et les couches deviennent de plus en plus minces. Donc, on fait des modèles de fluage, et quand on fait notre carotte de 3 km, on sait que les 10 cm en haut, c'est 10 cm, mais ils sont devenus 5 cm à mi-pente, et puis 1 cm. Alors, heureusement, on peut caler quand même cette courbe sur la Terre, parce que tantôt, on a des grandes éruptions volcaniques, par exemple le Pinatubo, qui vous saupoudre l'Antarctique d'un nuage de poussière. Là, on peut le dater. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le modèle colle, parce qu'on voit avec le modèle qu'on devrait être, je dis un chiffre tout à fait au hasard, à 250 000 ans, plus ou moins temps. On date les cendres et on est juste dans la fourchette. Ce qui montre que ça va. Sur Encelade, ça sera difficile.
Ça sera difficile. On disait pour la première exploration du système solaire que les planètes, c'était tous parents, tous différents. Est-ce qu'on peut dire la même chose quand on rentre dans, je dirais, une planète et son système entier, hein, comme les Saturne avec Titan, Mimas, Tétis, Rhea, Encelade. Ils sont tous parents, mais en même temps aussi tous différents. Ils ont tous quelque chose de différent.
Il y en a 7 des planètes, des gros satellites gros autour de Saturne. Mimas, rien à dire, on peut dire. Il n'y a que des cratères. Juste après Encelade, le monde fou dont on vient de parler. Après, j'espère que je ne vais pas me tromper, il y aura Tétis et Dione, je ne sais plus dans quel ordre. Dione a des failles partout. Tétis n'a qu'une grande faille, qui est un espèce de gigantesque canyon, relativement encore plus grand que le canyon de Mars. Ensuite, on passe à Rhea, où il n'y a vraiment pas grand-chose, mais plein de petites structures bizarres. Titan, le monde qu'on connaît, mais lui, il est beaucoup plus gros. Et puis, on passe à Jappé, avec son tiers complètement noir, et ses deux tiers complètement blancs. Et ce tiers noir, avec au milieu une espèce de ride extraordinaire, et ce noir qui est plein de molécules organiques. Donc, sept mondes.
Sept mondes différents.
Et c'est pareil sur Jupiter.
Ouais, et sans oublier les anneaux, qui sont un monde à eux tout seuls.
Ah bah oui, ouais. Ouais. Les anneaux, alors là encore, est-ce que les gens discutent? On sait qu'il y a des anneaux qui interagissent avec les satellites, des tout petits satellites. Il y a des petits satellites juste autour et dans les anneaux. Et on sait qu'ils alimentent pour partie les anneaux. On voit des jets de poussière qui vont du satellite à l'anneau réciproquement. Mais le gros de la masse de l'anneau, est-ce que c'est un satellite qui s'est cassé en 1000 morceaux, il y a un certain temps, ou est-ce que ce sont des satellites qui se sont agglomérés parce qu'on était trop près de la planète? Là, je crois que le débat est encore ouvert.
Merci Pierre Thomas, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve au prochain épisode.